vous, les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Vers un retour à la semaine de 4 jours, le gouvernement laisse le choix aux communes, dossier spécial. Parents, quel est votre avis? Nous vous avons tendu notre micro. Vous entendrez aussi le choix de Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse et du principal syndicat des enseignants du département. Et les élèves dans tout ça, interview avec Claire Lecomte, spécialiste des rythmes de l'enfant. Les agriculteurs ont-ils toujours leur place à proximité des villes? C'est la question posée par La Voix de l'Ain, notre partenaire. Radio B s'est intéressé au lycée agricole Les Sardières. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Il y a celles qui ont choisi d'y revenir dès la rentrée 2017, celles qui le feront en 2018 et celles qui se posent encore la question « revenir ou pas à la semaine de 4 jours ». Dans l'Ain, environ un quart des écoles a déjà abandonné les 4 jours et demi. Alors pourquoi de tels changements? On va faire un petit retour en arrière. Fin juin, l'année dernière, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, publie un décret. Dès la rentrée, les écoles maternelles et élémentaires publiques pourront passer de 4 jours et demi à 4 jours. Alors j'ai bien dit pourront, cette dérogation n'est pas obligatoire. Mais au final, il faut bien faire un choix aux communes de le faire après consultation des conseils d'école. L'inspection académique aura le dernier mot. Toutes les communes et tous les conseils d'école n'ont pas encore donné leur décision. Ils peuvent toujours le faire, il reste deux étapes. Mais le Conseil départemental de l'éducation nationale, le CDEN, prévu demain le 30 janvier, a été reporté. La raison, des syndicats ont voté contre la carte scolaire. Pascal Baudet représente le SNUIPP FSU, le principal syndicat des enseignants du département.
Ce qu'on appelle la carte scolaire, c'est l'étude des ouvertures et des fermetures de postes dans le département. Ça commence maintenant. Pour la rentrée prochaine, septembre 2018, sur la base des prévisions que les directeurs et les directrices d'école, en lien avec l'inspection évidemment, peuvent faire de leurs prochains effectifs.
Et pourquoi est-ce que vous avez voté contre?
Alors, le problème de départ, c'est que le département n'a eu une dotation en poste que de plus 14 postes. Pour expliquer un petit peu, au niveau national, le Parlement a voté un certain nombre de créations de postes, 3800 en gros, qui ensuite sont répartis dans toutes les académies et au sein de l'académie, donc de Lyon, il y a une répartition après qui se fait entre les trois départements, Rhône, Ain, Loire. Mais avec 3800 postes au niveau national, on savait pertinemment qu'on n'en aurait pas assez dans bien des départements. Et nous, au final, une fois que toute cette répartition a été faite, on arrive à plus 14 postes pour l'Ain. Plus 14 postes, ça veut dire c'est à peu près ce qu'il est nécessaire de créer pour les CP et les CE1 dédoublés en éducation prioritaire.
L'idéal, ce serait combien de postes?
Alors, c'est difficile à dire là précisément, hein, parce qu'il faudrait avoir exactement les prévisions d'effectifs de toutes les écoles. Mais il faut savoir juste que l'an dernier, on avait 70 postes, et l'année d'avant, à peu près pareil, 60, entre 60 et 70. Donc, ça fait deux ans qu'on a un nombre de créations de postes important pour le département, et là, ça chute. On passe de 70 à plus 14, c'est pas possible, quoi.
Et quelles sont les conséquences de votre vote pour le Conseil départemental de l'éducation nationale qui devait se tenir ce mardi 30 janvier?
Alors en fait, tout est reporté, du coup, puisqu'il doit y avoir la réunion d'un nouveau comité technique, d'abord, le même que vendredi, mais il doit se tenir, être réuni à nouveau, pour rediscuter des décisions de carte scolaire, justement, de l'inspectrice d'académie. Et du coup, le CDEN doit être reporté, donc a priori, au 8 février.
Lors de ce conseil, des communes allaient être fixées sur le retour ou pas à la semaine de 4 jours. Quel est l'avis de votre syndicat sur cette possibilité de revenir à la semaine de 4 jours?
C'est un sujet complexe. Hein. Au départ, lorsque cette réforme a été annoncée, on était plutôt ouverts, nous, syndicalement, à une évolution des rythmes scolaires. Mais vu la façon dont a été faite cette réforme par le précédent gouvernement, hein, bien sûr, maintenant on est pour un retour à 4 jours dans bien des communes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 80% des enseignants qui veulent revenir à 4 jours.
Et concrètement, les chronobiologistes, les spécialistes de l'enfance prônent pourtant les 4 jours et demi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, sur le fond, on est d'accord, on était d'accord avec ces analyses, enfin, on conteste pas ces analyses. Le problème, c'est que la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire que les enseignants dans beaucoup de communes n'ont pas été écoutés sur le choix des horaires qui ont été fixés. Souvent, c'est des contraintes matérielles, financières, on va dire, qui ont fait que dans telle commune, on avait tels horaires, dans telle commune, on avait tels horaires. Donc, au départ, déjà, les enseignants ont été bien souvent écartés du choix des rythmes. Ensuite, ça a été une complète désorganisation au sein de l'éducation nationale. Dans le département, on avait près de 80 horaires d'écoles différents. Donc, je vous laisse imaginer en termes de remplacement, de gestion des remplacements, enfin, ce que ça peut donner, quoi. Hein. C'était complètement dingue. Donc, c'est une désorganisation interne de l'éducation nationale que, évidemment, quand on est parent d'élève, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est incroyable d'en arriver à autant de rythmes différents. Et au final aussi, la mise en place des temps d'accueil périscolaires a été largement critiquée, hein, pas que par les enseignants, bien souvent par les parents, parce que en premier lieu concernés, évidemment.
Hein. Et finalement, il va quand même toujours y avoir des rythmes complètement différents, puisque certaines communes vont aussi rester sur les 4 jours et demi.
Oui,
donc ça va continuer à être le bazar finalement.
Non, il y en aura très peu. Au final, il y en aura. Enfin, je pense qu'il y en aura très peu. Hein. C'est difficile à mesurer encore à l'heure actuelle, mais je pense qu'au final, ça va être un raz-de-marée pour un retour à 4 jours. Hein.
Et ça se fait un petit peu au détriment des enfants finalement.
Ça se fait au détriment des enfants. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves dont les journées de classe étaient mieux réparties sur la semaine et allégées se retrouvaient aussi dans ce qu'on appelle les temps d'accueil périscolaire, autant, voire plus qu'avant. Donc ils passaient leur temps en collectivité, on va dire, autant, voire plus. Et ça, au final, ça avait aussi des conséquences sur le... on va dire, leur état, leur capacité de concentration sur le temps scolaire, quoi. Donc, oui, on n'avance pas, du coup, sur le sujet, hein, on recule. Il y a un sujet sur lequel on n'avance pas aussi, c'est le rythme annuel. Là, on est encore avec un calendrier annuel. L'exemple, là, c'est la période actuelle qui fait 5 semaines de classe et 2 semaines de vacances. Alors que nous, et les chronobiologistes prônent depuis longtemps 7 semaines de classe, 2 semaines de vacances. Et ça, on n'y arrive pas parce que, pour des contraintes, on va dire, économiques. Hein.
Quel serait, vous, votre modèle idéal d'école ?
Ah là là ! Je crois que si on demandait ça à 10 enseignants, on aurait 10 réponses différentes. Je crois effectivement qu'on a de vrais... une vraie réflexion à avoir sur cette semaine scolaire et les horaires, mais aussi sur les à côté, c'est-à-dire sur les autres temps de l'enfant. Et ça, ces temps-là, ils demandent un investissement important. C'est bien un des éléments qui a pêché dans la réforme, c'est-à-dire que les communes ont eu des aides financières, mais bien souvent pas pérennes, et elles se sont retrouvées à devoir mettre en place des temps d'accueil périscolaire sur leur propre denier, entre guillemets, alors même que on connaît le contexte par rapport au financement des collectivités territoriales. Donc il y a plein d'endroits où ces temps d'accueil périscolaire étaient de la simple garderie, entre guillemets. Hein. Et ça c'est pas bénéfique pour les élèves, quoi, pour les enfants. Si on veut vraiment avancer sur ces sujets-là, il faut investir et il faut que les communes aient les moyens d'investir sur les autres temps parallèles au temps scolaire, quoi.
Pascal Baudet du SNU, IPP-FSU, le principal syndicat des enseignants du département, interrogé par Élodie Gadiolet. Le prochain conseil départemental de l'éducation nationale se tiendra donc le jeudi 8 février et celui spécifique au rythme scolaire au mois de juin.
Radio B.
À Bourg-en-Bresse, la ville a fait son choix. Elle ne veut pas revenir à la semaine de 4 jours. Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse.
Nous aurons une réunion avec les représentants des parents d'élèves et des enseignants pour leur indiquer quelle sera la position de la ville. Je ne vois pas
Là, vous n'avez pas pris votre décision, alors.
Si, je ne vois pas de raison de revenir, de reperturber les rythmes de l'ensemble des enfants de Bourg-en-Bresse. Pour des raisons qui sont largement liées, non pas ce que l'on sait des rythmes nécessaires pour les enfants, mais qui sont liées au rythme des adultes. Chacun sait que nous sommes aujourd'hui le pays qui a le plus grand nombre d'heures de cours en primaire, et le plus petit nombre de jours d'école. Ça veut dire que nos journées sont trop chargées. Et tout le monde sait aussi, et même le nouveau conseiller du ministre, qui préside son conseil scientifique, qui est un neurobiologiste, eh bien, dit que...
Semaine de 4 jours et demi.
Oui, parce qu'il faut plus de matinées. Et donc, si on se place du point de vue de l'intérêt de l'enfant, de la capacité à réussir, de la capacité à enregistrer, à bénéficier au mieux de l'enseignement, on doit rester sur la semaine de 4 jours et demi. Je suis un peu agacé que ce sujet ait été traité pour des motifs de convenance par le ministre, sans aucune évaluation du dispositif précédent. Je considère que sur ce sujet-là, on n'a pas à revenir tous les 3 ans pour changer de fonctionnement. Nous avons beaucoup investi dans les travaux périscolaires. Les familles d'ailleurs... s'en félicite. Nous bonifions tous les ans les programmes. Donc je ne vois pas de raison aujourd'hui de venir reperturber un fonctionnement qui aujourd'hui donne satisfaction.
Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse. Et les parents, ils en pensent quoi ? Manon et Hugo sont allés à votre rencontre.
Pour le micro-trottoir, nous sommes allés devant l'école primaire Lazare Carnot à Bourg.
Pour avoir l'avis des parents sur la possibilité de revenir à une semaine de 4 jours.
Qu'est-ce que vous pensez de la semaine de 4 jours ?
Moi, je trouve que c'est bien. Pour les petits, ils ont le temps de se reposer au milieu de la semaine.
La semaine de 4 jours, très bien. C'est mieux pour les enfants. Ils sont moins fatigués et puis la coupure du mercredi, ça leur fait du bien. Parce qu'avec les activités sportives aussi à côté, ça fait beaucoup 4 jours et demi.
Bah, c'est bien, du coup, ils auront un jour de repos.
Bah, alors pour les enfants, c'est pas mal, je pense. À mon avis, c'est moins fatigant, c'est moins chargé. Par contre, pour les parents, c'est plus compliqué.
Qu'est-ce que vous pensez de la semaine de 4 jours ?
Ben, il y a des pour et du contre. Moi, personnellement, c'est vrai que mes enfants, ils aiment bien faire la grasse matinée le mercredi. Ça les d'avoir à se lever 5 jours dans la semaine, c'est compliqué. Mais personnellement, je pense qu'il faut penser aussi aux gens qui travaillent. Du coup, l'enfant se lèvera quand même et ira quand même en centre aéré ou chez une nounou. Donc, ça reste compliqué.
D'un point de vue objectif, on travaille toute la semaine, donc dans tous les cas, il faudra l'élever. Donc, en gros, qu'ils aillent à l'école ou pas, pour l'enfant, ça ne changera pas grand-chose. Si j'avais la possibilité de les garder le mercredi, une coupure dans la semaine, ce serait peut-être pas mal.
Et donc, vous êtes au courant de la décision prise par le maire de rester à 4 jours et demi ?
Non, j'étais pas au courant.
Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une bonne idée.
Ça me change pas énormément. Ça suit le rythme. Ça modifiera pas ma façon de m'organiser.
4 jours, c'est bien, les petits, ils ont le temps de se reposer au milieu de la semaine. Après, c'est sûr que pour les parents qui peuvent pas faire garder leurs petits, c'est difficile. Mais moi, j'aime bien 4 jours.
Et vous, que faites-vous pour alléger les journées de vos enfants ?
Les coucher tôt. Ouais, non, mais tout simplement, le mardi... On pouvait un peu relâcher, on va dire, nous aussi les parents. Pas forcément la douche le soir, plutôt le matin, ou pas forcément les devoirs le mardi soir et plutôt le mercredi matin, ou chez les grands-parents. C'est donc un peu plus tôt, parce qu'autrement, ils ne tiennent pas jusqu'aux 5 semaines d'école et après les vacances prochaines. Ouais.
Ils se couchent tous les soirs à la même heure. Le week-end, j'essaye de ne pas les faire dormir trop non plus. On essaye de faire un réveil aussi... comme la semaine, un petit peu le week-end, et essayer d'avoir un rythme régulier.
Globalement, moi, j'ai de la chance, j'ai des enfants, à 8h, ils sont couchés. Ils vont pas à la garderie, on a adapté nos horaires de travail pour qu'on puisse les emmener à l'école. C'est vrai que c'est nous qui nous sommes adaptés, en fait, comme toujours, j'ai envie de dire. Les parents s'adaptent, et voilà.
Je travaille pas le mercredi pour être avec eux, voilà. Donc, je suis à temps partiel exprès, c'est un choix, malgré que ça me crée des histoires auprès de mon travail.
d'être à temps partiel, mais pour rester avec eux, je suis en conflit constant avec mon patron, mais voilà.
De son côté, la FCPE, l'association de parents d'élèves, se positionne dans l'intérêt des enfants. Je la cite, « Nous craignons fortement que le rallongement des journées pour les enfants passant à 4 jours nuise au travail des élèves et par ricochet à celui des enseignants. » Et d'ajouter, « La FCPE ne peut pas soutenir le retour à 4 jours, d'autant plus si l'organisation ne privilégie pas des matinées allongées. » Fin de citation. L'intérêt des enfants, c'est ce que défend Claire Lecomte, professeure honoraire de psychologie de l'éducation et spécialiste des rythmes de l'enfant. À l'invitation de la FCPE, elle a donné dans l'un deux conférences sur cette question. Revenir à la semaine de 4 jours, elle le dit, ce n'est pas du tout la solution pour améliorer le bien-être des enfants et leur qualité d'apprentissage.
C'est pas nouveau, la semaine de 4 jours, elle est expérimentée en France depuis les années 1991. Donc on a fort bien pu démontrer que, en particulier pour les enfants un peu fragiles, c'est vraiment pas la bonne solution, loin de là. Le problème étant que la manière dont la réforme a été appliquée, elle n'a peut-être pas non plus permis que véritablement on voit tous les effets positifs de cette semaine de 4 jours et demi.
La spécialiste des rythmes de l'enfant se déplace dans toute la France depuis 2013. Elle a accompagné des communes un peu partout dans le pays. Ces dernières appliquent le schéma qu'elle propose.
Une semaine avec 5 matinées d'au moins 3h30, je ne dis pas forcément avec le mercredi matin. On pourrait aussi imaginer que ce soit le samedi matin, ce qui d'ailleurs serait bien préférable pour les enfants. Je sais que du point de vue de notre société actuelle, c'est difficile d'imaginer ça, alors même qu'on sait que c'est le meilleur moment quand même pour que le climat d'école soit le meilleur possible de la semaine. Un temps méridien bien aménagé, bien organisé, de 1h30 ou 2h selon le nombre de services de restauration. Et puis l'après-midi, 2h10 environ pour soit 3 après-midi d'enseignement et une après-midi de parcours de découverte. Et aménager ce temps après pour ceux qui restent, pour les enfants qui restent, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir un temps de récréation après ce moment-là, puis leur goûter, et ensuite un temps de jeu libre où on viendra les chercher à mesure qu'ils ont terminé ou que les parents peuvent venir les récupérer. Mais un jeu libre n'est surtout pas une nouvelle activité qui va vraiment sinon les exciter à nouveau.
Aujourd'hui, ces communes ne veulent pas revenir à la semaine de 4 jours et les élus qu'elles rencontrent s'interrogent.
En se disant, mais finalement, ces données-là, on ne nous les a pas apportées avant. On ne savait pas qu'on pouvait fonctionner autrement. On ne savait pas, et c'est vrai, et je le regrette fondamentalement, parce que malheureusement, je n'ai pas pu aller dans les 36 000 communes. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Mais ils prennent conscience que finalement, 4 jours et demi, c'est bien, mais il faut que les 4 jours et demi soient bien aménagés, bien organisés, pour que véritablement, ils soient utiles aux enfants.
Claire Lecomte ne s'intéresse pas au rythme scolaire, elle pense avant tout à l'aménagement des temps de vie de l'enfant. Il y a ce qui se passe à l'école, mais pas que.
Ça nécessite aussi que les parents entendent qu'eux ont une part de responsabilité dans le respect des rythmes de l'enfant également. Et que s'ils n'entendent pas que, par exemple, c'est coucher tous les jours à la même heure son enfant, c'est ça qui va respecter ses rythmes, quoi que l'on fasse, on aura des enfants fatigués. Or, c'est quand même une tendance très habituelle que de s'empresser de coucher tardivement son enfant sous le prétexte qu'il n'a pas classe le lendemain. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur du point de vue du respect des rythmes biologiques des enfants. Il y a des études qui l'ont prouvé, et je le dis dans les conférences que je fais, et finalement, les gens s'en rendent compte. Et ne pas tout mettre sur le dos de l'école, ce serait elle qui les fatigue. Non, il y a aussi une fatigue qui est liée au fait que les enfants n'ont plus forcément un sommeil de véritable qualité et en plus font un surcroît d'activité, parfois des horaires aberrants. Quand je vois des enfants de 7-8 ans faire du sport à partir de 18 heures, c'est une erreur, c'est une aberration. Donc c'est un tout qui doit être revu.
Mais pour apprendre à connaître le rythme des enfants, il faut du temps et c'est là que ça coince.
Et à chaque fois que j'avais proposé de prendre l'année pour poser les choses et pour préparer la réforme, on m'avait répondu « oui, mais en 2014, il y a les municipales, donc il faut qu'on se dépêche ». Donc à partir du moment où le temps politique est toujours plus important que le temps de l'enfant, c'est également le temps politique, là. Si on est très vite revenu à la semaine de 4 jours, c'était immédiatement pour satisfaire ceux qui avaient réclamé de pouvoir le faire et puis mettre ça de côté ensuite. Et voilà. Donc c'est toujours le temps politique qui prend le pas sur le temps de l'enfant. On met toujours la Finlande en avant en disant, voilà, mais on oublie une chose en Finlande. Ils ont aussi une réforme de l'école, une réforme de l'éducation. Cette réforme, dans sa globalité, elle a pris 15 ans. Il y a eu des changements politiques pendant ces 15 ans. On n'est jamais revenu sur ce qui était en train de se faire pour réformer. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est satisfait de la manière dont l'école fonctionne en Finlande, etc. Parce que tout le monde s'est entendu sur le fait que l'enfant était prioritaire, que l'éducation de l'enfant était prioritaire et qu'il fallait à la fois prendre le temps de mettre en place cette réforme, de la poursuivre et d'aller jusqu'au bout. Alors que là, on voit bien qu'en changeant tous les 3 ans, on ne voit pas ce qui peut être pérennisé. C'est constamment remettre à plat.
Avec le retour à 4 jours, le national de l'éducation va complètement exploser. C'est ce que prédit Claire Lecomte. Et elle n'a pas de doute, dans 2 ans, les choses changeront une nouvelle fois face à ce constat. Ça n'a rien apporté aux enfants. Claire Lecomte, professeure honoraire de psychologie de l'éducation et spécialiste des rythmes de l'enfant, revient dans le département. Elle sera le mardi 27 février à Oyonnax à 20h au Grand Théâtre du Centre Aragon.
Radio B. Radio B.
Les agriculteurs, ils étaient là avant que la ville s'installe. Donc finalement, c'est plutôt le milieu urbain qui est en train de prendre leur place. Donc voilà, je pense qu'il faudra la poser effectivement comme ça. C'est la ville est en train de prendre la place d'agriculteurs dans un certain nombre de territoires.
Restez à l'écoute. L'interview de Jean-Yves Charvin, directeur du lycée agricole Les Sardières, c'est dans quelques minutes.
J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, je m'automédique, j'avale les extraits merdiques. Ouais. Et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre des scampettes. Mes tempes m'ont pour ralentir, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou, allié, marteau comme ici les requins. Sous ce détique et l'ocaste pour des cils tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers collés, crocodiles Lacoste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à ces terres, pas vu des radars satellitaires.
Feu Chatterton sur Radio B avec Foualier. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Les Sardières, c'est un des quartiers de Bourg-en-Bresse et c'est là où est installé le lycée agricole du même nom. L'établissement compte environ 300 élèves et étudiants, des élèves en cours et sur le terrain. Le lycée a sa propre exploitation agricole avec vaches et volailles sur 150 hectares. Jean-Yves Charvin est directeur du lycée agricole Les Sardières. Le périurbain, c'est agriculture aux portes de la ville, c'est son quotidien. Alors, les agriculteurs ont-ils encore leur place dans ce milieu? Le directeur est surpris qu'on pose cette question.
Les agriculteurs, ils étaient là avant que la ville s'installe. Donc, finalement, c'est plutôt le milieu urbain qui est en train de prendre leur place. Donc, voilà, je pense qu'il faudra la poser effectivement comme ça. C'est la ville est en train de prendre la place d'agriculteurs dans un certain nombre de territoires.
La ville grignote les terres agricoles. Même le lycée Les Sardières est concerné.
Je vois bien que voilà, on était grignoté par l'autoroute, on est plus que grignoté là tout dernièrement par la future implantation d'une zone qui nous était mise à disposition avant par la ville de Bourg-en-Bresse et qui va nous amputer d'une quinzaine d'hectares. Donc pour moi, tel que je le vis en tout cas en tant que responsable aussi d'une exploitation agricole, c'est le fait d'être en bordure de ville et de voir petit à petit les terrains s'urbaniser, des terrains qui étaient avant destinés à une vocation de production agricole.
Face à cette situation, Jean-Yves Charvin précise, oui, les agriculteurs ont leur place à proximité des villes, mais ils doivent s'adapter aux enjeux du territoire, c'est-à-dire gérer à la fois des contraintes et saisir des opportunités. Alors parmi les contraintes, il y a par exemple la pression du voisinage, et là, tout le monde doit y mettre du sien.
Charge aux agriculteurs à veiller à aussi éviter au maximum les nuisances et comprendre aussi le souci des populations par rapport à un certain nombre de sujets. Et puis aussi la prise de conscience des gens qui habitent près d'une exploitation que c'est agréable de voir des vaches dans un champ. Parfois, il peut y avoir peut-être un tout petit peu plus de mouches que s'il n'y avait pas de vaches, mais est-ce que c'est moins gênant que la pollution urbaine ou que d'autres sujets ?
Du côté des opportunités, les agriculteurs peuvent développer plus facilement la vente directe et donc être en contact avec la population.
Mais c'est aussi une opportunité pour les agriculteurs de faire connaître leur métier, une opportunité pour les gens du milieu urbain de voir comment on fait du lait, parfois, comment on fait pousser des légumes, souvent. Donc c'est aussi intéressant pour les deux parties, puisque ce n'est pas deux mondes séparés. Hein. Voilà, donc c'est intéressant d'être à proximité et d'essayer d'en bénéficier.
Dans ce sens, le lycée agricole Les Sardières accueille des élèves de primaire, de collège pour faire connaître leur métier.
Il faut quand même rattacher l'alimentation à la production agricole. C'est-à-dire qu'il est important, à mon sens, que les enfants continuent à penser que pour faire du lait, il faut des vaches. On voit plein de débats, etc., qui naissent sur, par exemple, la consommation de viande, etc., parce qu'il y a une espèce d'éloignement, un manque de prise de conscience, à mon avis, dans les jeunes générations, sur la relation entre un aliment et le fait qu'avant, il y a eu un être vivant, animal ou végétal, mais enfin, il y avait quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui s'en occupait pour le produire. Ça s'appelle un agriculteur.
Jean-Yves Charvin souligne la place essentielle des agriculteurs et de préciser, ces derniers présents depuis toujours le resteront. Et pour ça, ils ont besoin du soutien des élus pour protéger les exploitations. En plus du plan local d'urbanisme, le PLU, les villes peuvent définir des zones agricoles protégées, les ZAP. Le directeur du lycée Les Sardières le regrette, ce n'est pas encore le cas à Bourg-en-Bresse. Pourtant, la ville a lancé des démarches dans ce sens dès 2010. Fin 2014, le conseil municipal avait validé le périmètre pour la création d'une zone agricole protégée sur le secteur du lycée Les Sardières. Le préfet avait ensuite lancé la procédure, mais ce périmètre ne convenait pas à l'ancienne directrice du lycée, comme l'explique Claudie Saint-André. Elle est adjointe au maire à la ville de Bourg-en-Bresse, en charge de l'urbanisme et des déplacements.
Selon elle, proposait un périmètre qui était trop restreint et qui ne permettait pas de protéger l'ensemble des fonciers exploités par les Sardières à l'époque. Donc le préfet a souhaité rencontrer le maire, il y a eu des échanges entre eux, des échanges de courriers, et depuis octobre 2015, le sujet n'a pas bougé, le préfet n'ayant jamais émis d'arrêter. Il ne manquait pourtant finalement à cette période-là que l'enquête publique et la délibération finale du conseil municipal.
Aujourd'hui, l'adjointe au maire croit toujours à ce projet pour gérer au mieux le développement sur ce secteur de la ville.
Il faut sans doute relancer avec le préfet les échanges pour que ce dossier puisse avancer. Néanmoins, il y a de nouveaux éléments puisque dans le cadre de la CA3B, les communes de Jasseron et Saint-Just sont dans la même communauté d'agglomération maintenant et qu'un travail est engagé au niveau de la CA3B pour pouvoir travailler éventuellement à la mise en place d'une ZAP qui serait périurbaine et qui prendrait en compte les besoins des trois communes.
Un premier travail technique est engagé. Place maintenant aux échanges. Claudie Saint-André le précise, la ville se rendra disponible pour y participer. Ville-campagne, une cohabitation à organiser, c'est le choix des lecteurs de notre partenaire La Voix de l'Ain, un dossier à retrouver dans le dernier numéro de l'hebdomadaire en kiosque depuis vendredi. Merci à Élodie, à Manon et à Hugo en stage la semaine dernière à la radio. Merci à Pauline à la réalisation et à vous pour votre écoute. Restez sur le 90FM à 20h, c'est Ping Pong Radio Show avec Captain. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de découvrir. Bonne soirée sur Radio B. Retrouvez à vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.